À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Un numéro spécial réalisé avec Marie et Salomé en stage la semaine dernière à la radio. Nos apprentis reporters ont interviewé l'autrice de « Comment s'informer » aux éditions du Ricochet pour tout savoir sur les journalistes et les médias. Elles étaient aussi à la MJC de Bourg-en-Bresse. Marie et Salomé ont testé pour vous l'exposition « Savoir comprendre, agir pour dire non à la haine ». Vous entendrez aussi toujours à leur micro un conférencier gesticulant pour parler de la place des écrans dans nos vies.
Bonjour Sophie Eustache, vous vivez à Paris, vous êtes autrice et journaliste pigiste, c'est-à-dire que vous travaillez pour plusieurs médias, comme par exemple Le Monde Diplomatique. Le sujet que vous traitez souvent, c'est la critique des médias. En 2016, vous avez créé l'association Journalistes Debout. Et en février dernier est paru votre livre « Comment s'informer » aux éditions du Ricochet, illustré par Élodie Perrotin. Les journalistes sont souvent critiqués. Plusieurs journalistes ont été récemment victimes de violences. Vous le vivez aussi ?
Non, parce que moi j'ai pas trop fait de manifestations. Et après il y a eu plusieurs types de violences et notamment des violences policières. Il y a un journaliste qui a été arrêté hier. Donc ça me paraît très grave que la police empêche les journalistes de travailler. Mais sinon personnellement je n'ai pas été victime de violences.
Il y a les violences extérieures et il y a aussi ce qu'il se passe dans les médias, comme par exemple la censure. Ça a déjà été le cas pour vous ?
Non, mais j'ai pas mal interviewé, quand j'ai lancé Journaliste Debout, j'ai pas mal interviewé des confrères et des consoeurs qui ont été censurés, notamment à Canal+, où Bolloré a censuré plusieurs documentaires, dont un sur le Crédit Mutuel. Et il y a beaucoup d'autocensure aussi, donc les journalistes qui osent pas, avant même d'avoir l'interdiction de faire un sujet, ils osent pas proposer le sujet, parce qu'ils ont peur... Voilà des réactions des propriétaires des médias.
Dans votre livre « Comment s'informer », vous écrivez « Les journalistes sont incités à travailler vite et du coup à bâcler parfois leur travail ». Sophie Eustache, est-ce qu'ils font donc des erreurs ?
Ah oui, ça arrive souvent. Après, il y a des erreurs plus ou moins graves. Moi, j'ai un exemple d'une journaliste... qui devait absolument faire un reportage parce qu'il y avait de la place dans le journal de, je crois que c'était le journal de TF1, de faire un sujet sur la météo, sur le fait qu'il faisait beau. Et arrivé sur place, le temps était mauvais et son rédacteur en chef l'a quand même forcé à faire un sujet sur le beau temps alors qu'il faisait pas beau. Et ça, c'est vraiment une injonction due au fait qu'il faut absolument produire, même si on n'a pas le temps, faut boucher les trous dans les journaux. Du coup, pas mal de journalistes témoignent du fait qu'ils n'ont pas le temps de vérifier les informations, donc ils reprennent les sources officielles comme les communiqués de la préfecture ou les dépêches de l'agence France Presse. Mais la préfecture, ça arrive qu'elle mente parce qu'elle a fait une bêtise et du coup, elle veut se protéger. Et les journalistes, ils n'ont pas le temps de vérifier les affirmations de la préfecture ou d'autres institutions d'ailleurs. Ça peut amener la publication d'erreurs, de mensonges. C'est arrivé même aux grands journaux.
Et est-ce que vous avez fait des erreurs ?
Oui, ça m'est arrivé, notamment dans mes premiers stages, des interprétations d'interviews, en fait, où j'avais cru comprendre quelque chose et en fait, c'était pas ça. Donc oui, ça m'est arrivé, bien sûr.
En 2016, avec deux confrères, Jessica Trochet et Julien Bonnet, vous avez créé l'association... Journaliste Debout, dans quel but ?
Alors, le but, c'était de récolter des témoignages de journalistes sur justement les coulisses de la fabrication de l'information. Et le but, c'était d'en faire un manifeste que je suis toujours en train d'écrire.
Il y a quoi dedans ?
L'idée, c'est qu'il y ait une partie sur dénonciation, ce qu'on refuse dans les médias actuellement. Donc par exemple la concentration des médias, le fait que les médias soient aux mains de milliardaires, le fait qu'il y ait une homogénéité sociale chez les journalistes, donc ça fait qu'il y a des angles morts dans le traitement de l'information. et aussi une partie revendication sur des solutions à mettre en place pour qu'il y ait un service, une sorte d'énorme service public de la presse qui soit contrôlé aussi bien par les journalistes que les citoyens. Le monde diplomatique a développé un projet un peu comme ça qui s'appelle Projet pour une presse libre. Et le but, c'est aussi de faire connaître les témoignages. Voilà, c'est les trois points.
Est-ce que c'est tout ça qui vous a donné envie de proposer des sujets sur la critique des médias ?
Oui, après, c'est des sujets qu'on m'a aussi commandés par rapport à l'appel à témoignages, justement, où on avait beaucoup de témoignages sur le fait qu'il faille faire de l'audience sur Internet, donc travailler vite, produire beaucoup d'articles. Et du coup, le monde diplomatique nous avait commandé un article sur les nouveaux sites d'information comme Combini et les conditions de travail dans ces nouveaux médias. Et après, voilà, de fil en aiguille, je connais de mieux en mieux le sujet, donc j'ai de plus en plus d'idées et je trouve le sujet passionnant. Donc oui, ça me donne envie de continuer à faire de la critique des médias en tout cas.
Sophie Eustache, dans votre livre « Comment s'informer ?», vous l'écrivez « Libérons l'information ». Concrètement, ça veut dire quoi ?
La définition qu'on donne, c'est au moins des médias qui sont financés avant tout par les lecteurs et aussi par les journalistes, donc que les journalistes soient propriétaires avec les lecteurs des médias, de leurs propres médias, ce qui évite d'avoir des médias aux mains d'industriels qui ont d'autres intérêts que celui d'informer, puisqu'ils ont des activités économiques qui sont en contradiction avec le droit des citoyens d'être informés.
Est-ce que vous vous considérez comme propriétaire de vos propres médias ?
Moi, je suis pigiste, donc je n'ai aucun média, mais le monde diplomatique, il appartient à 51% au groupe Le Monde et à 49% à ses journalistes et à l'association des lecteurs, des amis du monde diplomatique. Et il y a des journaux comme Alternative Économique qui a un statut de coopérative, donc qui appartient à ses salariés. C'est le genre de modèle que moi je défends.
Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Parce que j'avais envie de faire une version pour les jeunes du manifeste qui devait paraître plus tôt, avant, à l'origine, mais bon, pour des raisons d'éditeur, ça a été reporté. Et voilà, j'avais cette idée d'adapter ça pour les ados. Et en plus, apparemment, il n'y avait pas tellement d'autres choses.
Comment les jeunes peuvent contribuer à libérer l'information ?
Déjà, je pense en lisant de la presse indépendante, donc en étant abonné à de la presse. Bon, bien sûr, faut être en accord avec aimer ce qu'on lit, mais il y a de la presse. Je pense qu'il y a assez de presse indépendante pour trouver un peu de chaussures à son pied. Et je pense que c'est important d'aider cette presse-là, donc en la lisant, en l'achetant, en s'abonnant.
D'après une étude américaine de la revue Science Advances, publiée en janvier dernier, ce sont les plus de 65 ans qui partagent le plus de fake news. Qu'en pensez-vous ?
C'est un peu compliqué sur le partage des fake news, parce que souvent, ces études considèrent que parce qu'on partage une fake news, on y croit forcément. Et ça, c'est pas toujours le cas. On peut partager une fake news pour avoir l'avis de ses copains, parce que ça nous choque, mais pas forcément parce qu'on y croit. Donc je suis toujours assez méfiante sur ce genre d'études, sur la viralité des fake news, parce qu'on ne connaît pas trop leurs effets. Et ça, il y a souvent un amalgame entre ces deux choses.
Une solution pour éviter les fake news ?
Déjà, les grands médias, ça leur arrive aussi d'en relayer. Donc je pense que si eux avaient les moyens matériels pour faire leur travail correctement, il y aurait moins de fake news diffusées dans les grands médias. Et ça serait déjà une bonne chose, parce que je pense que c'est beaucoup plus grave quand une fake news est relayée par un média national que par un internaute.
Vous proposez un livre accessible aux plus jeunes. Vous aimeriez qu'ils partagent avec les adultes ce qu'ils auront appris dans votre livre ?
Oui, d'ailleurs je crois que les adultes, ça leur plaît bien. Mes amis ont bien aimé et ils commencent à être grands.
Sophie Eustache, merci. Vous êtes autrice et journaliste pigiste. Votre livre « Comment s'informer » aux éditions du Ricochet, illustré par Élodie Pirotin, est sorti en février dernier.
Merci.
Radio B.
Bonjour Marie, bonjour Salomé.
Bonjour Audrey.
Bonjour Audrey et bonjour à tous.
Savoir comprendre, agir pour dire non à la haine.
C'est le nom d'une exposition interactive. Vous pouvez la voir gratuitement jusqu'au vendredi 10 mai à la MJC de Bourg-en-Bresse.
À travers plusieurs ateliers, cette expo libère la parole, lance des débats, pousse la réflexion et développe l'esprit critique de ses visiteurs.
L'exposition « Savoir comprendre, agir pour dire non à la haine » a été créée par les MJC d'Alsace en 2015. Un projet pour faire face à la haine croissante sur les réseaux sociaux. Et suite aux attentats contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Nous osons faire l'humanité ensemble en luttant contre les discriminations, en valorisant la mixité, l'égalité et l'ouverture culturelle.
C'est la phrase retenue par le Parlement européen lors d'une conférence sur le vivre ensemble, après un travail avec 2000 jeunes. Maintenant, suivez-nous à la MJC de Bourg-en-Bresse. On a testé pour vous l'exposition « Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine ».
Bonjour, je m'appelle Marie.
Et bonjour, je m'appelle Salomé. On est toutes les deux élèves au collège et au lycée Saint-Pierre et on est cette semaine en stage à Radio B. Alors là, on est venu tester l'exposition « Savoir, comprendre et agir contre la haine ». Et voilà, on va rencontrer des animateurs.
Bonjour, Isabelle Puce, coordinatrice jeunesse à la MJC de Bourg-en-Bresse.
Bonjour, Florent Delorme, animateur au Centre d'information droits des femmes et des familles.
En fait, on co-anime cette exposition parce que depuis 2014, on travaille ensemble sur des projets qui traitent du thème du vivre ensemble. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on vous accueille tous les deux aujourd'hui. Premier module, autour des médias. Donc vous avez trois panneaux. C'est quoi les médias? C'est quoi les infos? Qui fait les infos? Ben, je vous propose de regarder comment ils se décomposent, puis échanger après avec nous si vous le souhaitez. Là, vous avez regardé les trois panneaux concernant les médias. Alors, première question. Donne un aspect positif et un aspect négatif de la radio.
Alors, le fait qu'on n'ait pas d'image, ça fait qu'on se concentre plus sur l'écoute et sur ce que la personne dit.
Je ne sais pas si on peut appeler ça un aspect négatif, mais on peut dire que la radio s'efface de plus en plus. Enfin, on a moins l'habitude d'écouter la radio que, par exemple, de regarder la télé ou d'aller sur Internet pour connaître quelques informations. Voilà. Donc, la radio s'efface un peu.
Je vais vous laisser lire la réponse.
La radio est le média le plus réactif. Elle est d'ailleurs utilisée en cas d'urgence. En cas d'alerte nucléaire, par exemple, le gouvernement demande aux populations d'écouter les consignes transmises par les stations nationales comme France Inter.
Et le point de vue négatif, c'est que des études ont montré que les informations entendues à la radio sont celles que l'on oublie le plus vite. Alors, lors d'un flash, les infos s'enchaînent et sont difficiles à mémoriser sans le support du texte ou de l'image.
Moi aussi, je vais vous poser une petite question toute simple. Combien de temps les jeunes de 12 à 17 ans regardent-ils en moyenne la télévision?
Par semaine je dirais au moins 13 heures de télévision.
Moi, je pense que c'est un piège, en fait. La télé, elle s'efface de plus en plus. Ils passent de plus en plus de temps sur leur téléphone. Enfin, personnellement, moi, je regarde quasiment pas la télé. Mais par contre, je pense que je passe deux fois plus de temps sur mon téléphone. Donc, je dirais 5.
Bonne argumentation. Mais malheureusement, c'est Marie qui a trouvé ces 13 heures.
En même temps, l'exposition date de 2015, voilà, donc peut-être que ça est depuis, voilà. Vous avez peut-être réduit en fait le temps de...
Je suis d'accord avec ce que tu dis.
Alors, on peut passer sur le module Puzzle Cube pour comprendre sur quel socle sont construits les fondements de notre société. Je vais vous laisser jouer. Alors, le cube bleu représente l'événement clé, l'autre cube, l'opposition, un personnage important...
L'origine du mot...
Une définition, un symbole...
Et puis, une citation... Bah, on vous laisse jeter le dé, et puis vous essayez de trouver. Vous êtes tombé sur le mot « la République ». Donc, dans l'ordre que vous voulez, vous associez au mot « la République » une définition, l'origine du mot, etc., etc.
Je mets ça.
Bah si, ça, c'est une démocratie. Si la définition, c'est ça, alors.
Donc, pour la République, vous avez donné la définition « régime politique où les dirigeants sont élus par le peuple ». Oui. On va continuer, en fait, vous allez voir, là, il y a un module sur, en fait, le décryptage des images.
Dans un premier temps, nous décrire l'image que vous avez sous les yeux.
Donc, en fait, on voit un motard et une voiture de police, et on voit que le motard, il pointe son revolver contre un agent qui est dans sa voiture.
Donc, cette image, elle a été postée sur quel média, on va dire?
Sur un réseau social, sur Facebook.
Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est sur Facebook?
Le petit logo like.
D'accord. Donc, ça a été liké, ce qui veut dire que ça a été aimé. Combien de personnes ont participé à ce like.
234.
Et au niveau du partage,
25 467 partages.
Et cette partie-là, celle, donc la partie en dessous de l'image, c'est quoi selon vous?
Alors je lis, c'est beau l'intégration, regardez cette image, elle a été prise dans un quartier sensible de Champigny-sur-Marne. Il s'agit du bois Labbé, un vrai petit paradis selon Valls. D'ailleurs, ailleurs qu'en France, le motard serait certainement déjà mort.
Maintenant, si vous lisez les réactions qui ont été postées,
je pense que ce genre d'attaque va aller en se multipliant puisqu'ils sont chez eux et que nous ne sommes plus chez nous.
C'est posté sur Facebook, ça a été partagé, ça a été aimé. Est-ce que vous y croyez à cette image?
La réaction et l'expression du policier dans sa voiture. Il paraît neutre, ça paraît totalement normal pour lui, et il bouge pas, il réagit pas. Alors pour moi, c'est improbable.
Je vous laisse lire de quelle manipulation s'agit-il et les éléments de réflexion.
Oui, on se rend compte que la légende ne va pas du tout à l'image parce que cette image est extraite d'une série télévisée.
Et ici, on nous dit qu'elle a été prise dans un quartier sensible, donc en fait, on nous ment sur le contexte de l'image. Et quand on n'a pas le contexte, qu'on a un faux contexte, et bah, on peut l'interpréter différemment.
Merci à Isabelle et à Florent de nous avoir accueillis pour nous faire découvrir l'exposition « Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine ». Vous pouvez la voir à la MJC de Bourg-en-Bresse jusqu'au vendredi 10 mai.
Elle est ouverte à tous et c'est gratuit.
À noter, la MJC sera fermée les mercredis 1er et 8 mai.
Retrouvez toutes les infos sur le site de la MJC de Bourg-en-Bresse.
Radio B.
Radio B.
Les écrans, alors que ça soit au départ la télévision, l'ordinateur, les tablettes, les téléphones, sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. On les utilise de plus en plus longtemps, c'est plusieurs heures par jour. Et donc finalement, quelquefois, ces outils de communication peuvent devenir des obstacles à la communication. C'est-à-dire que quand on a les yeux rivés sur son écran, pour communiquer avec des gens qui sont à distance, on n'est pas du coup des fois toujours disponible pour échanger avec les gens qui sont juste à côté de nous. Et des fois, ça peut poser des difficultés. En tout cas, il faut inventer des règles du jeu pour vivre bien avec ça.
Restez à l'écoute du 90 FM. On retrouve Philippe Cazeneuve, conférencier gesticulant, dans quelques minutes. Au micro de Marie et Salomé, il parlera de son projet, l'écran Méchant Loup, sa future conférence sur la place des écrans dans nos vies.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? Tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches de sans sentiments. Au fond, j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là. Rassuré quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel. Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et si
tellement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde, il veut seulement la fête.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens.
Angèle sur Radio B avec La Thune. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Bonjour Philippe Cazeneuve, vous faites des conférences gesticulées. Ce sont des spectacles où se mélange du savoir froid, la théorie, donc lu dans les livres ou appris à l'école, et du savoir chaud, des expériences, le vécu du conférencier ou de la conférencière, ses histoires et sa culture.
Aujourd'hui, vous proposez deux conférences. Tic-tac, le temps c'est de l'argent et de quelle humanité le robot est-il l'avenir? Et vous en préparez une autre autour d'une question, l'écran méchant loup. Mais avant de vous lancer, vous recueillez la parole de jeunes au sujet des écrans. Cette conférence gesticulée tournera dans des MJC de l'Ain en 2020.
Bonjour.
Alors Philippe Cazeneuve, l'écran méchant loup?
Bah, c'est une question et la réponse, elle n'est pas évidente. Ça dépend des situations, puis ça dépend des personnes. Donc le projet de conférence spectacle s'adresse à des adolescents, mais aussi à leurs parents, aux adultes, aux éducateurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les écrans, alors que ça soit au départ la télévision, l'ordinateur, les tablettes, les téléphones, aujourd'hui essentiellement, sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. On les utilise de plus en plus longtemps, c'est plusieurs heures par jour. Et donc finalement, quelquefois, ces outils de communication peuvent devenir des obstacles à la communication. C'est-à-dire que quand on a les yeux rivés sur son écran, pour communiquer avec des gens qui sont à distance, bah, on n'est pas du coup des fois toujours disponible pour échanger avec les gens qui sont juste à côté de nous. Et des fois, ça peut poser des difficultés. En tout cas, il faut inventer des règles du jeu pour vivre bien avec ça.
Et pourquoi le choix de ce titre ?
C'est un jeu de mots, évidemment. Et un titre, ça doit être accrocheur et ça doit interroger, donc poser une question sans apporter immédiatement les éléments de réponse. Et il n'est pas sûr que la conférence, elle apporte toutes les réponses. L'objectif, c'est plutôt d'ouvrir la discussion sur le sujet.
Comment est né ce projet ?
Alors, c'est une commande, en fait. C'est donc l'Union départementale des MJC de l'Ain. Il y a 6 MJC qui participent au projet, qui ont déjà l'habitude de coproduire des spectacles. Donc, c'est la 3e fois que ça se fait. Donc, elles se regroupent pour demander à quelqu'un de créer, en fait, un spectacle. Et cette année, la demande a été de créer une conférence gesticulée sur ce thème des usages du numérique par les adolescents. Donc là, il y avait une commande de s'adresser plus particulièrement aux adolescents et que ce soit une conférence qui puisse être tournée dans les établissements scolaires, notamment au niveau des collèges.
Pourquoi impliquer des jeunes ?
Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont finalement quelquefois les experts d'un certain nombre de pratiques. De plus en plus, elles et eux l'utilisent beaucoup. C'est quelquefois eux qui sont en situation d'expliquer à leurs parents ou à leurs grands-parents comment ça marche. Et ça prend beaucoup, beaucoup de place dans la vie des adolescents. Donc on a déjà fait des petites interviews, des ateliers de théâtre forum dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et en échangeant sur les pratiques des adolescents, certains nous disent « mais moi le téléphone c'est toute ma vie quoi. Si j'ai pas mon téléphone, si je l'ai oublié, si j'ai plus de batterie, c'est la catastrophe quoi ».
Ces jeunes jouent des scénettes de théâtre. Ce sont eux qui choisissent le sujet autour du thème des écrans. Ils peuvent parler de ce qu'ils vivent au quotidien, entre copains, dans leur famille, à l'école, dans la rue.
Allez à table tout le monde ! Allez ! À table !
Ah, allez, viens !
Et ça fait déjà 5 minutes qu'on est à table, là. Tu ranges ton portable et tu viens te mettre à table. Qui veut de la salade ?
Moi.
Oh ! Et ?
Oh !
T'es encore avec ton portable ?
Bah, allez.
C'est soit tu nous donnes ton portable ou soit tu vas dans ta chambre.
5 secondes. T'as 5 secondes.
Bah, il peut dans ma chambre. Mais non, on supporte plus ton portable. T'es constamment sur ton portable. Il y a plus de lien, il y a plus de relation entre nous. T'es toujours sur ton portable.
Donc ça, c'était mercredi après-midi à la MJC de Bourg pendant un atelier avec une dizaine de jeunes du centre social de la Ressouze. On entend aussi Pauline, leur accompagnatrice. Philippe Cazeneuve, une réaction ?
Ben voilà, en très peu de temps, on arrive à avoir une situation qui est une situation qu'on trouve assez couramment aujourd'hui dans les familles. Et puis, le principe du théâtre forum, c'est à partir d'une ce qu'on appelle une maquette, une situation de départ, un petit scénario, une petite scène qui est jouée, de proposer à un public qui va assister d'intervenir, de pouvoir prendre la place d'un des personnages. Et on demande en fait au public, à votre avis, comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux ? Et on peut remplacer en fait tous les personnages, on peut remplacer là dans ce cas-là aussi bien la mère qu'un des enfants qui est à table.
Pourquoi avoir organisé des scénettes de théâtre ?
Parce que d'abord on joue au théâtre, donc c'est ludique, ça implique le corps. On peut exprimer des choses même si on n'a pas tellement réfléchi, si on vous posait la question qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On n'a pas forcément la solution, on n'a pas forcément les mots pour l'expliquer en théorie. Mais par contre, dans la pratique, on est capable des fois de le jouer, de mettre en acte la solution. On va agir et il n'y a pas besoin forcément de mots savants pour pouvoir trouver des solutions.
On retourne à la MJC de Bourg pour une autre scénette.
Ok, c'est bien que ça enchaîne sur le lacet là, comme ça tu
vas-y.
Filmes.
Vas-y, dis-lui, elle fait tes lacets comme ça je prends un slack. Je poste.
P. Mais carrément, laissez-le par terre. Ouais, voilà.
Certains adolescents ont joué des rôles, comme disputer son enfant avec son téléphone à table ou harceler un autre élève. Pour ce dernier exemple, c'était difficile pour les filles qui jouaient. À la fin, elles répétaient « Mais on n'est pas comme ça, hein ?» en les mettant à la place d'eux. Vous recherchez quoi ?
Alors, c'est toujours intéressant de prendre le rôle de l'autre. C'est-à-dire que ça permet de se décentrer, ça permet de voir une situation avec un regard différent depuis un autre endroit. Donc, le principe du théâtre forum, c'est effectivement de se mettre à la place de l'autre. Quand on est enfant, de devoir jouer un rôle d'adulte. C'est réciproque aussi, c'est-à-dire on va demander à des adultes de aussi jouer les rôles d'enfant. Et puis, dans le cas que tu cites, on va demander à des enfants, des adolescents, de se mettre dans des situations qu'ils n'ont pas forcément vécues. Ils peuvent avoir été en situation d'être victime de harcèlement, par exemple, ou d'une agression pour qu'on lui pique son téléphone. Se mettre à la place de l'agresseur, à un moment donné, c'est un jeu, hein, on fait semblant. Ça permet de voir la situation avec un autre point de vue et d'imaginer peut-être la prochaine fois que ça m'arrivera, je ne vais pas réagir de la même façon, je vais me comporter autrement.
Philippe Cazeneuve, ces jeunes ont joué des scénettes devant leur famille et des amis. Pourquoi les faire jouer devant un public ?
Alors c'est important, c'est un peu comme des sportifs qui s'entraînent pour jouer au foot ou pour jouer au basket. Et puis si on ne fait jamais de match, l'entraînement il sert pas forcément à quelque chose, on peut s'amuser. Mais à un moment donné, c'est intéressant d'avoir une espèce d'objectif à se donner et c'est très stimulant de jouer devant un public. Voilà, c'est comme quelqu'un qui chanterait dans sa salle de bain. Quand tu dois chanter, que tu es enregistré ou que tu vas chanter devant un public, ça amène un petit peu de stress ou de trac, mais ça permet souvent d'être un petit peu meilleur, quoi.
Avec ce projet, l'écran Méchant Loup, quels sont vos objectifs avec ces jeunes ?
Donc les jeunes qui ont participé aux différents ateliers comme celui qui s'est passé à la MJC avec le centre social sur Bourg, il y en a eu d'autres donc dans d'autres MJC de l'Ain, apportent des idées en fait. Les scénettes qui sont jouées, les histoires qui sont proposées, c'est eux qui proposent les thèmes, c'est pas nous qui écrivons les sujets. Donc selon les endroits, il y a des idées, des propositions qui sont faites, qui viennent des jeunes eux-mêmes, qui font partie des situations qu'ils proposent et qu'ils connaissent. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Ça va donner lieu avec cette matière qu'on a recueillie au cours de ces 6 mois, là, jusqu'au mois de juin, à l'écriture donc, d'une conférence spectacle, conférence gesticulée, qui va être proposée en 2020 dans le département.
Souhaitez-vous les inciter à limiter leur temps sur les écrans ?
Ça dépend, il y en a qui sont effectivement dans des usages qui sont très importants en termes de nombre d'heures et quelquefois la nuit ou des choses comme ça. Donc là, certains ont besoin de mettre des limites en nombre d'heures. Pour d'autres, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de choisir les moments où on utilise et les moments où on n'utilise pas. Il y a certains spécialistes qui disent finalement, alors ça dépend des âges, mais il faudrait, à chaque fois qu'on passe une heure devant un écran, il faudrait passer une heure à être actif, à bouger, voilà. Donc si on fait autant d'activités physiques, dehors, de sport ou d'autres choses, qu'on passe de temps immobile devant un écran, c'est pas un souci, c'est une question d'équilibre.
Philippe Cazeneuve, merci. Vous faites des conférences gesticulées. Aujourd'hui, vous en proposez deux. Tic Tac, le temps c'est de l'argent. Et De quelle humanité le robot est-il l'avenir ? Et vous en préparez une autre autour d'une question, l'écran Méchant Loup.
La conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve, l'écran Méchant Loup, tournera dans des MJC de l'Ain en 2020.
Radio B.
Une dizaine de jeunes du centre socioculturel de la Grande Ressouze ont participé au projet de Philippe Cazeneuve à la MJC de Bourg.
Certains ont répondu à nos questions.
Quel rapport as-tu avec les écrans aujourd'hui? C'est-à-dire combien de temps est-ce que tu passes environ par jour sur les écrans en général?
Ça peut aller à 2 heures par jour, si nécessaire.
Tu considères que c'est beaucoup?
Pas trop.
Sur 24 heures, je passe 17 heures, on va dire.
Quel rapport as-tu avec les écrans aujourd'hui?
Le téléphone, je passe à peu près 20 minutes et la télé 30 minutes.
Entre 1 et 7 heures.
Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme accro aux écrans?
Un peu.
Quel rapport as-tu avec les écrans aujourd'hui? C'est-à-dire combien de temps est-ce que tu passes environ par jour sur ton téléphone ou sur la télé?
Alors, je compte pas beaucoup. Quand j'ai envie de regarder mon téléphone, je reste dessus. Quand j'ai plus envie, soit je pars avec ma famille ou bien je regarde la télé. Mais je compte pas, je reste combien d'heures sur mon téléphone.
Et du coup, est-ce que tu penses que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone ou sur les écrans en général?
Ouais. Ouais, je trouve. Je reste beaucoup de temps.
5 heures sur le téléphone et la télé 2 heures.
Qu'est-ce que ces ateliers vont changer pour toi?
Ça me permet de m'ouvrir.
Que je me retire un peu sur les écrans et tout et tout.
Que ça réduit un peu le temps de pratique sur le portable, sur la tablette. Et que avant je faisais environ 5 heures et que là je suis passée de 5 à 1 ou 2 heures.
Qu'est-ce que ces ateliers ont changé pour toi?
Ça nous a mis un peu les téléphones de côté. C'est-à-dire on a plus pratiqué que jouer au téléphone. Donc du coup c'était bien.
Ça nous a fait comprendre plusieurs choses, qu'il ne faut pas être non plus trop accro au téléphone et qu'il y a autre chose à faire que rester comme ça sur un téléphone.
Cite-moi une chose que tu ne faisais pas avant. Et que tu vas faire maintenant?
Ne pas prendre mon téléphone avant de dormir,
essayer de rester un peu moins dessus.
Rester moins que 5 heures sur mon téléphone.
Pauline Guillemot est animatrice jeunesse au centre socioculturel de la Grande Ressouze. Elle accompagne les jeunes de 12 à 18 ans.
En tant que professionnelle, quand on a des retours des parents sur la problématique de l'écran, on essaye de mettre en place après des actions auprès des jeunes, auprès des parents, sur la problématique de l'écran des réseaux sociaux. Et notamment, on a un projet de soirée d'échange en tant que parents. Et souvent, les parents nous parlent de la problématique des écrans, du fait qu'ils n'ont plus de lien entre leurs enfants et eux, parce qu'il y a toujours l'écran qui s'oppose à la relation, et ça leur pose énormément de problèmes, ou des questions de harcèlement sur Internet, etc. Donc nous, on essaye après d'organiser des actions autour de toutes les problématiques qui tournent autour des écrans, auprès de jeunes comme auprès d'adultes.
Pauline Guillemot, animatrice jeunesse au centre socioculturel de la Grande Ressouze, elle accompagne les jeunes de 12 à 18 ans.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui.
Merci à Isabelle et à Florent,
à Cécile, à Pauline et aux jeunes du centre social de la Grande Ressouze,
à nos invités Sophie Eustache et Philippe Cazeneuve,
et un grand merci à vous pour votre écoute.
Merci à vous deux, Marie et Salomé, pour la qualité de vos interviews, votre bonne humeur et votre motivation. Je rappelle que vous étiez en stage la semaine dernière à la radio pendant vos vacances. Bravo les filles! Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h. Et à tout moment sur notre site radio-b.fr.